Alors Philippe Baudouin, oui, tu peux peut-être annoncer ce qu'on a écouté là.
Blues for Alice.
Oui, c'était Blues for Alice, dans lequel j'ai choisi ça parce qu'il y avait Red Rodney dedans, le trompettiste, qui est montré très très fréquemment dans le film, qui a une part importante, et qui a joué, qui était très jeune quand il a joué avec Parker, il avait à peine 21-22 ans, il a joué 8 mois en 1949. Et là, on l'entend donc prendre un chorus et la trompette.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du travail qui a été fait sur le son, les arrangements musicaux, enfin la manière, parce que je crois que Clint Eastwood a fait un travail assez dément, d'après ce qu'il a expliqué.
C'est pas que Clint Eastwood, c'est aussi Lenny Niehaus.
Oui. Alors, expliquez-moi ça un peu, Jacques Schneck.
Moi, je pense que c'est assez irrégulier. Il y a de très bonnes choses, en particulier une scène dans un club où Parker joue un blues et où ça me paraît être franchement très bien dosé. En plus, la rythmique rajoutée me joue très bien et il y a une ambiance qui est extrêmement authentique. Et la musique est très belle. Parker prend des chorus absolument merveilleux dans ce blues. Il y a un passage de la reconstitution de séance donc de Parker avec des cordes, ce qui me paraît excellente. Par contre, il y a des passages où, du point de vue du son, ça me paraît assez médiocre, en particulier le sax est très loin derrière et la rythmique, qui est une rythmique rajoutée contemporaine, est au contraire très devant, et ce qui fait que ça fait perdre vraiment beaucoup de caractère à ce passage.
Est-ce que tu pourrais expliquer, Jacques, ou l'un d'entre vous, comment a procédé Eastwood? Parce que je crois qu'il a isolé le son de Parker et demandé à des musiciens contemporains d'accompagner en fait Parker.
Un contemporain de Parker aussi. Hein, je veux dire,
bon.
Comment est-ce qu'il a Brown, par exemple, à la contrebasse qui a joué avec
Daniel
Parker.
Luc, oui, vas-y.
Moi, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais enfin, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, je pense, difficile en tout cas à réaliser. C'est-à-dire qu'isoler le son de Parker sur une bande, sur des morceaux qu'on connaît, existants, donc isoler du reste de l'orchestre, ou de la rythmique essentiellement. Et puis, surajouter par là-dessus une rythmique ou des violons, dans le cas où il y a des violons, de gens qui ont joué donc ça l'année dernière. Hein, donc. Et donc, beaucoup de difficultés pour les musiciens, déjà, à jouer avec Parker. Non pas que son jeu soit compliqué, mais c'est quand même toujours dur de jouer avec un autre vécu. Le jazz, c'est vraiment une musique de l'instant. Et c'est quand même pas commode. N'importe quel musicien amateur ou professionnel qui a essayé de jouer avec un disque, et je crois que tout le monde s'est essayé à ce petit sport, s'est rapidement aperçu que c'était pas aussi évident. C'est faisable, mais on arrive rarement à une intégration totale, totale jamais, mais à une adéquation, je dirais, rythmique, et puis même de sensuelle, quoi, je veux dire, de tout ce qui concerne. Parce que le jazz, c'est une musique d'échange, hein, je veux dire, quand on joue dans un orchestre, Le soliste écoute la rythmique écoute le soliste, c'est un échange vraiment permanent.
Tandis que là, ils avaient supprimé tout, il fallait tout refaire, donc, la rythmique derrière,
voilà,
c'est ça qui était difficile.
C'est extrêmement difficile. De toute façon, tout ce qui a été fait au cours de ce film, à n'importe quel sujet, c'est difficile. Il est difficile de faire la biographie de qui que ce soit, encore plus d'un musicien de toute façon, et encore plus d'un musicien de jazz, où cette musique est une musique de l'immédiateté, de l'instant.
Et je dirais même encore
Philippe
plus
Baudouin,
en Amérique,
ouais,
à la limite.
Oui,
il a dû avoir des difficultés incroyables. Eastwood, d'ailleurs, il les a eues pour faire ce film. Il s'est battu. Il a fait ça parce que vraiment, il l'aimait, il avait envie de le faire. Il aurait pu penser aussi qu'il allait se ramasser. Et que... D'ailleurs, on ne sait pas encore le film, comment il peut marcher en Amérique.
Je ne sais pas comment le film marche en Amérique. Il marche bien, me dit Eric. Mais je crois qu'en France aussi, ça marche bien. Enfin, moi, je le souhaite parce que je trouve qu'il y a une intégrité. On sent l'amour qu'Eastwood a pour le personnage.
Ça, déjà, il s'est,
il y a une démarche
complètement mis en derrière.
Ouais.
Alors maintenant, il y a quand même deux... Personnellement, j'ai relevé deux passages qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. Mais enfin, bon... peut-être que l'immense majorité des spectateurs de ce film n'auront pas les cheveux qui se dresseront sur la tête, et c'est pas grave. C'est au moment de la jam session, là où le batteur envoie sa cymbale, donc qui est en plus un instant, deux instants très, qui auraient dû être des instants très forts, qui sont des instants très forts du film, mais moi que je trouve
ratés.
Ils sont réels ?
Ah oui, absolument.
On connaît le nom du batteur qui a jeté la cymbale, c'est Joe Jones, batteur de Count Basie.
Et alors, cette scène est ratée à tous les niveaux. Elle est ratée parce que il n'y a pas de réalité de cette jam session, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le public, ça se passe dans une espèce de flou artistique sombre, complètement, alors là, glauque, enfin, qui ne veut rien dire, une espèce d'irréalité que peut-être qui est voulue par Clint Eastwood dans une espèce de poésie hollywoodienne, enfin, j'en sais rien, moi. Enfin, bon, ça laisse un malaise, je trouve.
Et puis,
ça me met mal à l'aise. Et alors là où il y a un hiatus terrible, c'est que les musiciens donc, qui sont sur scène en même temps que Charlie Parker. Donc cette scène est censée se passer avant-guerre.
En 1934, en principe.
34, alors là, c'est une aberration totale, parce que les types qui jouent donc avant Parker jouent...
Comme dans les années 50.
Comme dans les années 50, après justement toute l'influence de Parker sur la musique de jazz. Ce qui est une aberration totale. Je trouve même... Alors, c'est caractéristique d'une chose, quand même. C'est que les Américains, et parce que Lenny Niehaus, qui est donc le responsable de la musique dans ce film, est un très bon musicien, est un très grand arrangeur, et ses qualités musicales ne sont pas en doute. Par contre, là où souvent les Américains pêchent, que ce soit pour le jazz ou pour d'autres domaines, c'est que généralement, ils ne connaissent même pas leur propre histoire, et que c'est déjà un exploit qu'ils aient réalisé ce film. Mais là, on a un exemple alors absolument frappant de la, débilité des Américains vis-à-vis de l'histoire de leur propre musique nationale. C'est vraiment de la débilité.
Oui,
c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout un procès de spécialiste, ceci, cela. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le monde à l'envers, si vous voulez. Alors ça, c'est la première scène que je trouve particulièrement ratée dans le film. À mes yeux.
Donc c'est un anachronisme.
Un anachronisme et sur le plan du film, une mauvaise scène.
Ouais. Moi je la trouve pas bonne aussi, j'ai aimé d'autres séquences.
Et il y a une deuxième scène qui m'a vraiment fait dresser les cheveux sur la tête, c'est en rapport avec ce que disait Jacques Schnack tout à l'heure, à savoir la mise en avant au premier plan sonore de la rythmique par rapport au soliste. C'est dans l'enregistrement de Loverman qu'on voit, c'est donc... dans le film, on voit l'enregistrement de Loverman qui se passe à un moment extrêmement important de la vie de Parker, un moment où il est vraiment malade, où ça ne va pas du tout, où il est à moitié fou. Enfin, ça, on le sait par des tas de témoignages. Et il est montré comme tel, et là, je crois que Forest Whitaker est assez mauvais, je peux le dire, parce qu'il est trop bon dans le reste du film. En tant qu'acteur, il est bon parce qu'il a fait un travail formidable. Mais là, il est mauvais. Là, il est mauvais parce qu'on n'y croit pas. Il lance son saxophone dans la vitre de la cabine de son. Peut-être que Parker l'a fait, mais de la manière dont s'y prend Forest Whitaker, ça a fait complètement plaquer. Enfin, je veux dire, on dirait un film de Louis Malle, quoi. C'est un désastre. Non, je suis sérieux. Et alors là, où c'est plus grave encore pour moi, c'est la musique. Parce que, évidemment, qu'ils ont repris le son de Charlie Parker dans Loverman, qui est un de ses solos les plus poignants, parce qu'en même temps, là, ce que je disais tout à l'heure sur l'immédiateté du jazz, on sent qu'il est cinglé, qu'il est en crise, quand on écoute simplement le disque, si vous voulez. Et là, ce magnifique solo, qui est à la fois magnifique et poignant, est complètement gommé, parce qu'on entend Ray Brown, qui est un très bon musicien, qui n'est pas en cause, mais c'est la contrebasse de Ray Brown qui mène le jeu, si j'ose dire, dans le domaine musical. C'est un contresens musical absolu. Parce que d'ailleurs, quand on connaît le disque, qui n'est pas un disque si mal enregistré que ça, évidemment, c'est pas de la hi-fi, c'est pas de la stéréo, c'est pas tout ce qu'on veut. Mais enfin, les gars, ils jouent tout doucement, mais tout doucement. Et je pense que cette volonté de jouer doucement avait été plus ou moins imposée, sinon par Parker lui-même, du moins par son état pathologique, si vous voulez. Il y a une espèce de retenue... où on sent que les gars, ils savent pas trop s'ils...
Ils demandent s'ils vont s'arrêter dans la minute, voilà. Dans la seconde qui suit, parce que Parker va tomber.
Alors que là, on entend une rythmique, tout à fait bon enfant. Allez, on joue Loverman, 3, 4, ptom. Enfin, c'est vraiment... Et ça met pas en... Je mets pas du tout en cause les qualités musicales de Ray Brown et des autres membres de la rythmique, ni même de Lenny Niehaus, mais là, il y a une erreur de goût, d'intelligence, je dirais, de la vie musicale de Charlie Parker. Là, il y a vraiment une grosse, grosse faute de goût et qui se double, comme par hasard, d'une faute d'interprétation humaine. D'ailleurs, c'est pas étonnant puisque la musique, pour un jazzman, et son attitude, sa vie, se rejoignent se recoupent énormément. Un musicien de jazz s'implique énormément dans sa musique. Alors évidemment, l'acteur, avec une bande-son comme ça, c'est normal qu'on sente un décalage.
Tu as trouvé ça en deçà. Et toi, Philippe Baudouin, qu'est-ce que tu en as pensé, là, des arrangements musicaux et...
Moi, ça ne m'a pas gêné beaucoup. Effectivement, il y a quelques petits instants, mais peut-être que c'est des problèmes techniques insurmontables, j'en sais rien, effectivement, cette scène-là. Moi, ce qui m'a frappé complètement aussi, c'est la fameuse scène anachronique de ce moment clé du film, puisque la cymbale, on la revoit toujours lancée. D'ailleurs, moi, j'ai bien aimé ça.
Ça revient.
La cymbale qui...
Oui, c'est une figure de style. Trouvais,
ça, pas mal. On voit au début, quand on ne sait pas, on se demande ce que c'est. C'est pas mal fait.
Ça fait un peu système, je trouve.
Oui, mais bon, j'ai... Mais cette scène, c'est une scène clé du film, soi-disant, puisque dans l'esprit de Charlie Parker, tout est basé là-dessus, et toute sa vie future, où, ah oui, le coup d'être viré dans une jam session comme ça, on sait qu'il a travaillé comme un fou pour ensuite jouer formidablement bien et pouvoir, pas seulement ça, mais il y a un petit peu, pouvoir dire, voyez, maintenant, vous m'avez viré. Je suis Charlie Parker. Bon, d'ailleurs, les saxophonistes, ensuite, on les voit jeter leurs instruments dans la scène, mais dans l'Hudson, certainement. Et il y a aussi quand même une scène, qui m'a un peu gêné, c'est la scène du Rhythm and Blues, parce que moi, je vois pas trop quand même Charlie Parker aller piquer le sax d'un type qui joue du Rhythm and Blues.
C'est une anecdote dont j'ai entendu parler, pourtant, ça.
Ben, je sais pas.
Mais
je
crois que le problème aussi, c'est que...
Elle est rêvée,
ils ont voulu... faire une musique de clown, ils ont dit voilà, le gars il fait de la musique de clown, etc. Et ils ont mis quoi sur scène? Un excellent orchestre de rhythm and blues.
Par contre, oui, la musique est formidable. La musique est formidable.
Alors c'est idiot parce que on peut très bien, je conçois très bien que esthétiquement on préfère le bebop au rhythm and blues. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se conçoit parfaitement. Enfin, je vois pas ce qui peut autoriser.
Non, mais je crois...
qui que ce soit à dire que le rhythm and blues est une musique de clown. Non, même si certains artistes de rhythm and blues sont très spectaculaires. Et en l'occurrence, ce qu'on voit dans le film et ce qu'on entend dans le film, c'est une excellente musique de rhythm and blues.
Ouais.
Non, mais et je ne crois pas que Charlie Parker, je ne vois vraiment pas Charlie Parker en train d'aller dire à leur faire une espèce de morale. D'abord, je ne crois pas qu'il ait fait la morale à qui que ce soit. Ça me paraît un peu douteux. Par contre, l'anecdote est exacte, mais l'anecdote, elle est exacte dans le sens où Parker aurait dit à un type qui était un bon saxophoniste et qui faisait du rhythm and blues, qui est une musique plus simple, effectivement, lui aurait dit, dis donc, je croyais qu'on pouvait faire plus de notes, effectivement, voilà, sur un saxophone. Mais je ne crois pas qu'à ce moment-là, la musique, dans la réalité de la vie de Charlie Parker, de cet instant-là, je ne crois pas que la musique ait été aussi bonne que celle qu'on voit dans le film. Donc, troisième erreur un peu musicale.
Mais Clint Eastwood s'en explique quand même, dans une interview avec Alain Corneau. Alain Corneau lui reproche un peu. Il lui dit, je suis convaincu que Charlie Parker considérait le rhythm and blues comme faisant partie de sa culture. Et Clint Eastwood dit, dans cette séquence, il ne s'agit pas vraiment de rhythm and blues, mais plutôt d'un gars qui se démène sur scène devant un public de blancs et qui joue sur une seule note comme s'il singeait cette musique. En fait, donc, il reproche surtout le type d'être habillé avec des tas de choses, d'avoir un sax avec qui brille et puis de bouger, de se rouler par terre. C'est pas tellement la musique elle-même, je crois, Daniel,
Oui, non, mais moi ça m'embête quand même.
Une fois de plus,
je ne peux pas du tout croire au personnage de Charlie Parker. Une fois de plus. Mais enfin, comme j'y crois pas depuis le début, finalement, c'est pas tellement gênant.
Par contre, est-ce que la scène à Paris, où il retrouve des musiciens qui sont à Paris, et un musicien entre autres, qui peut-être censé représenter Kenny Clarke, qui était à Paris, moi je l'ai trouvé bien faite.
Oui, moi aussi. Il y a beaucoup de scènes quand même.
J'ai trouvé très bien cette discussion.
Il y a beaucoup de scènes où on sent quand même que c'est des témoins directs qui ont aidé Clint Eastwood et les acteurs et qui dégagent un certain réalisme, je dirais, social.
Un souci d'authenticité. Et en plus, ce que j'ai trouvé comme qualité du film, c'est qu'on voit une certaine réalité de l'Amérique. Enfin, moi, j'ai trouvé que le voyage, par exemple, en Alabama, c'était pas une mauvaise séquence.
C'est sympathique. Ouais.
C'est sympathique.
Assez... Et puis c'est drôle en même temps.
Ouais.
C'est
ça voilà.
Qui est bien. C'est qu'il a réussi à montrer la réalité du Sud et du racisme, tout en étant, tout en
assez
prenant
fin.
De façon avec Albin Aurel.
C'est ça. J'ai trouvé ça quand même. Dans beaucoup de films, on nous masque la réalité un petit peu sociale de l'Amérique, enfin la réalité de l'Amérique. Là, je trouvais dans le Clint Eastwood, on voit un petit peu plus l'Amérique que d'habitude.
Il faut dire quand même une chose, moi je trouve qui est intéressant, c'est que Red Rodney a donc vu évidemment le film deux fois ensuite, et il a écrit une lettre à Clint Eastwood en le remerciant, et il a trouvé ça très bien. Il dit qu'il s'est remémoré certaines scènes et qu'il se revoyait complètement. C'est-à-dire que c'est quand même un beau compliment.
Vas-y. On va passer à un autre petit morceau musical qui est du film, hein, je crois. On prend un extrait du film, donc.